La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André. À la prise de son ce soir, Julien Calvas. Réalisation Daniel Finot. Et autour de moi ce soir, Sandra Adancourt, Anaëlle Pigeat et Frédéric Bonnet pour parler ensemble de David Goldblatt au Centre Pompidou, de Seiya Stoka à la Maison Rouge et de Van Dongen au Musée Montmartre. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Death Note, une vie à l'étroit, un film de Kantemir Balagov qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au Centre Pompidou pour y découvrir la rétrospective qui est consacrée à David Goldblatt, né en 1930. Le photographe a été le témoin engagé de la lutte contre l'apartheid, dont il a vu l'instauration puis la chute. Il a photographié les hommes et les paysages depuis qu'il a 16 ans, un travail qui permet de suivre aussi l'évolution sociale et politique de son pays. Plus de 200 photographies, une centaine de documents souvent inédits, ainsi que des films où Goldblatt, on en reparlera, commente ces photographies, permettent au public parisien d'avoir une large vision de son travail. La commissaire en est Karolina Zibienska-Lewandowska. Corinne Marchand signe la scénographie. J'étais bien dans cette musique, alors j'avais envie de l'entendre encore un petit peu, mais ce n'est pas une émission musique ce soir, mais bien art plastique dans la dispute. Et donc nous allons parler à présent de David Goldblatt. Alors, il était temps que Paris se mette à cette grande rétrospective. New York et Barcelone l'ont devancé depuis une vingtaine d'années. Vous n'êtes pas sûr, Frédéric Bonnet ? Tiens, on va commencer par vous alors.
Ah si, moi je suis sûr qu'il fallait absolument montrer David Goldblatt à Paris.
Il était temps.
Ah bah oui, il est plus que temps.
Ah oui, c'est ça, c'était ça votre petite moue.
Il est plus que temps, il était plus que temps de montrer David Goldblatt à Paris.
En grand.
Et il faut aller voir cette exposition.
Bon, mais voilà, parole à Anaëlle Pigeat alors.
Je l'avais
prévu comme ça, Anaëlle, alors allez-y. Mais je fais en fonction aussi de ce que je vois autour de moi.
Oh, oui, on avait déjà eu un petit avant-goût de David Goldblatt il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, à la Fondation Louis Vuitton, dans l'exposition sur l'Afrique du Sud. Et là, c'est vraiment une exposition magistrale qui montre l'ampleur du travail de David Goldblatt, sa cohérence aussi. Et c'est une exposition qui est magistralement conçue, magistralement composée, parce qu'elle se divise en deux parties. Il y a une première partie qui traite des séries historiques de David Goldblatt et une deuxième partie qui traite d'un grand projet qu'il a commencé au début des années 80 qui s'appelle Structure et qu'il continue jusqu'à ce jour. Ce qui est absolument remarquable dans la conception de l'exposition, c'est la méthode de présentation des œuvres. Dans chaque partie, il y a une œuvre contemporaine qui souligne la cohérence du travail. Donc, quand elle se rapproche des séries beaucoup plus anciennes, par exemple Dans les mines ou par exemple Some Africaners qui date plutôt des années 60. Donc, cette photographie contemporaine, une série historique ensuite et pour chaque chapitre, un film qui présente les photographies. Un film extrêmement simple, dans lequel on voit David Goldblatt assis à une table, en train de raconter des histoires qui concernent chacune de ses photographies. Ce qui est intéressant, c'est que les photos de David Goldblatt ne sont pas à prendre comme ça, simplement comme des photographies. Elles sont toujours accompagnées de mots, de textes, d'histoires. Il y a aussi des textes de David Goldblatt à la première personne qui nous font rentrer dans l'intimité de ces images. Il dit notamment dans un des textes que une photographie ne se résume pas à quelques-uns de ces mots, quelques phrases d'explication, mais le fait de les expliquer leur donne une force supplémentaire. Alors, le travail de David Goldblatt se situe sur un fil extrêmement précis. Il y a une dimension documentaire dans son travail, puisqu'il nous montre toute la vie sous l'apartheid de l'Afrique du Sud des années 60. Et puis ensuite la chute de l'apartheid et l'époque contemporaine. Il y a donc un aspect documentaire, mais on ne peut absolument pas considérer que ça se limite à cette dimension documentaire, puisque ce qui, je crois, caractérise le plus ce travail, c'est son côté humaniste sa richesse formelle, évidemment, et la précision de son regard, la simplicité aussi de sa démarche. Ce sont toujours des images extrêmement simples. C'est un travail qui est très politique, très engagé, mais jamais militant, qui est imprégné d'une sorte de sagesse comme ça, et de sont des images toujours extrêmement posées, extrêmement calmes, extrêmement respectueuses des sujets qu'il photographie. C'est un photographe extrêmement généreux. Qui a des activités multiples, puisqu'en fait il a commencé dans la presse magazine, dans lequel il a mené d'abord un travail en couleur, puis il a développé un travail personnel qu'il a mené en noir et blanc pendant toute l'époque de l'apartheid. À la fin de l'apartheid, il a commencé à utiliser la couleur dans son travail personnel comme une forme de libération. Après un passage par l'Australie. Et dans la période contemporaine, il est revenu dans son travail personnel au noir et blanc, signe d'une certaine difficulté de la situation post-apartheid, une évidente difficulté de l'après-apartheid en Afrique du Sud.
Après cette belle introduction, Sandra Dancourallet, premier regard sur cette exposition David Goldblatt au Centre Pompidou à Paris.
Oui, comme le disait Anaëlle, ce qui ressort de l'exposition, c'est à la fois que ce Goldblatt est un génie du documentaire engagé. Il s'inscrit complètement dans cette histoire du documentaire social américain. On pense à Walker Evans, Dorothea Lange, je ne sais jamais comment on dit, Lange.
Comme vous avez envie. Je ne sais jamais non plus.
Voilà, donc il est vraiment à la fois héritier de ce documentaire social américain, mais ce n'est pas que cela, effectivement. Et ce qui l'intéresse, c'est surtout la manière dont les gens habitent cette terre et habitent justement cette terre qui est traumatisée de cette histoire, de l'apartheid. Goldblatt ne perd jamais de vue le détail humain, en fait, qui rompt à chaque fois le motif. Il y a des détails de vêtements, souvent, où il y a des regards. Il y a une photographie que j'ai trouvée très impressionnante sur justement et qui est révélatrice de ce qu'on vient de dire, c'est cette photo incroyable d'une employée d'une épicerie qui est adossée à des étagères de conserve dans le quartier de ça se passe dans le quartier de Soweto à Johannesburg. C'est une des séries historiques qu'a réalisé David Goldblatt, et le sujet et l'auteur de la photographie croisent leurs regards. Et ça, je trouve que ça montre vraiment cette qualité de Goldblatt qui quitte en fait souvent le pur exercice en fait du témoignage visuel sur une situation pour faire sentir à la fois la conscience du photographe qui est derrière ce façonnement d'une image et qui en même temps crée une sorte de participation active comme cela du spectateur qui n'est plus seulement un récepteur. Voilà, de l'information. Je crois qu'il y a un vrai rejet, en fait, chez Goldblatt, de l'information et de l'image à des fins politiques. Évidemment, il est traumatisé, peut-être, de ces manipulations et de ces déformations qui ont eu lieu pendant l'apartheid. Pourtant, sa photographie, elle dénonce avec force. Mais chaque fois, il arrive vraiment à préserver l'intégrité du regard.
Enfin, Frédéric Bonnet, pour ce premier tour de table, même si vous avez fait le prologue.
Oui, enfin, il était court le prologue.
Ben oui, mais c'est pour mieux revenir vers vous.
Donc on y revient. Oui, moi je souscris parfaitement à ce qui a été dit. Moi, ce que j'aime énormément dans le travail de David Goldblatt, c'est qu'on a un photographe qui véritablement cherche à développer une pensée critique et qui est pas dans l'image coup de poing et rapide, mais au contraire, il y a quelque chose du temps. Il y a toujours quelque chose d'arrêté dans les images de Goldblatt. On prend son temps, le sujet prend son temps et on n'est jamais dans le furtif. Et il explique d'ailleurs très bien que comment parfois des choses qu'il n'a pas prévues, des événements qu'il n'a pas prévus vont finalement venir aider à composer ces images. Mais on n'est jamais dans l'immédiateté, on n'est jamais dans la compassion du documentaire social, on n'est pas dans la passion ni dans les émotions du photographe. On est face à un œil, face à un observateur et face à un témoin. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est d'être le témoin de son époque et des profondes inégalités de la société sud-américaine. Sud-africaine. On va y arriver. Moi, je la trouve remarquablement bien conçue également, cette exposition, parce qu'elle met bien en balance les deux obsessions du travail de Goldblatt, qui sont d'un côté les corps et de l'autre côté les structures. Structure, ça c'est le maître mot de son travail. D'ailleurs, évidemment, il y a la moitié de l'exposition qui porte ce titre-là, et c'est tout à fait juste et tout à fait bienvenu. Mais qu'est-ce qu'on entend par structure ? On entend des cadrages, on entend des structures architecturales, parce que... Et c'est ça que je trouve toujours très très bien, très fort dans le travail de Goldblatt, c'est que d'une part, il y a une corporalité qui est là, partout, une attention au corps, une attention au visage. J'ai trouvé très bien joué d'avoir introduit l'exposition avec cette série qui s'intitule Particulars, une série de 1975, qui sont des focus très très rapprochés sur des morceaux de corps, des entrejambes, un morceau d'oreille, un bout de main, parce que ça introduit d'entrée cette importance absolument capitale du corps et de la corporalité. Mais après, quand il déplace le terrain sur la ville ou sur l'architecture, il y a notamment toute une série absolument magnifique de photos d'églises. Qu'est-ce que c'est que des églises construites par des Blancs dans un territoire en apartheid soumis à une telle ségrégation? Ce sont des structures de domination. Et on n'est jamais face à un photographe qui va dénoncer « ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pour les Noirs, ça c'est pour les Blancs ». Oui, il montre aussi à certains endroits des passerelles où il y a un couloir pour les Blancs, un couloir pour les Noirs. Mais pour en revenir à cette série sur les églises ou sur les universités, il pose frontalement le caractère antidémocratique d'une architecture qui est une architecture de domination. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que à côté d'une de ces très très belles photos, de très très belle architecture au demeurant, il y a la photo d'une église apostolique multiraciale, et alors elle, c'est juste un abri de fortune. Et là, on est véritablement confronté, sans discours tapageur, sans tambour et trompette, à ce que c'est que l'apartheid et la ségrégation au temps de l'apartheid.
Peut-être avant de continuer, quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Cérise Elisa, l'expo sur David Goldblatt est magique. À propos des films, Le Curieux des Arts nous écrit pour David Goldblatt: j'ai trouvé très très fort ces films dans lesquels le photographe dissèque littéralement sa photo et l'explique avec l'original juste à côté. Il faudrait tous les regarder, ces films, une expo à voir et à écouter pour la force et la justesse des mots. Et puis un mot qui revient deux fois, chez Oli, qui dit: quelle claque cette exposition, 60 ans de photos en parcourant l'Afrique du Sud, l'apartheid. Bon. Et au Palais dit: allez voir cette exposition et notez comme une claque les dates des dernières photos. Ce n'est pas de l'histoire, c'était hier. Parce que c'est ça aussi qui est assez remarquable, c'est que cette pratique, elle est toujours en cours et que s'il nous donne des nouvelles de l'histoire, effectivement, il nous donne des nouvelles avec la même acuité. Moi, je suis très frappé par la force continue. Enfin, l'impression que, alors, je l'ai dit tout à l'heure, les premières photos dès 16 ans, mais que l'œil était là, qu'il savait ce qu'il voulait nous montrer. Et effectivement, cette rencontre entre les corps et les espaces, c'est quand même une chose qui n'est pas si fréquente et qui là est vraiment particulièrement précieuse dans l'histoire de très, très difficile, douloureuse de ce pays. Anaëlle Pijat?
Oui, il y a une extrême... Enfin, ce qui est très frappant, c'est l'acuité, en fait, de son regard. Effectivement, la singularité de l'exposition est de montrer... Enfin, une des singularités de l'exposition est de montrer ses travaux très anciens de David Goldblatt, quasiment adolescent. Mais elle montre aussi des photographies extrêmement récentes qui datent de 2015, 2016, 2017, qui montrent la réalité aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Et avec la même complexité, avec la même précision, il y a un moment, quelqu'un dans le catalogue, le travail de Goldblatt en citant Borges et en parlant d'une complexité modeste et secrète. C'est une belle manière de caractériser ce travail. Le regard de Goldblatt n'est jamais simplificateur. Si on prend par exemple une des photographies les plus récentes, qui est une photographie dans une université, donc les universités qui ont fait l'objet de, enfin qui ont été le théâtre d'émeutes des étudiants dans le mouvement Fees Must Fall, c'est-à-dire un mouvement dans lequel les étudiants noirs se sont rebellés contre les œuvres, enfin on fait on brûlait des œuvres, des collections de l'université, au motif que c'était des œuvres peintes par des tableaux et des sculptures réalisées par des artistes blancs. Il y a donc une photographie d'une sculpture couverte d'un drap de tissu, enfin d'un tissu, comme d'un manteau. Il s'agit d'une sculpture qui est d'un artiste Willy Bester, qui est une Vénus hottentote. David Goldblatt raconte que les étudiants ont supposé que cette œuvre était l'œuvre d'un artiste noir, qui donc d'un artiste blanc, qui donc n'aurait pas été légitime pour représenter une femme noire nue, raison pour laquelle ils auraient couvert cette sculpture de ce drap. C'était sans savoir, raconte David Goldblatt, que Willy Bester était en fait lui-même une personne de couleur et que le fait de représenter cette Vénus hottentote pour lui était quelque chose d'extrêmement fort. Et il montre par là la fin de la liberté d'expression dont tout ce mouvement est une manifestation.
Sandra Dancourallé, à nouveau sur David Goldblatt.
Oui, c'est toujours cette perspective humaine qui prévaut sur la perception qui ressort de cette exposition et qui ressort très bien dans cette exposition. Pour moi, l'art extraordinaire de Goldblatt se situe effectivement dans cette capacité à faire des portraits, en fait, à capter un instant qui sous-entend tout de suite un récit derrière un personnage, derrière le personnage photographié. Il y a un autre exemple que j'ai envie de donner, qui est cette danseuse adolescente dans la série des Afrikaners ou de Boxburg, cette ville de blanche de classe moyenne, où on voit cette jeune fille habillée de son tutu qui laisse voir son appareil dentaire en faisant un large sourire. Et on a ici donc le portrait d'un corps en pleine croissance qui est photographié devant une maison typique justement de cette classe moyenne. Et j'aime la manière dont Goldblatt commente cette photo en disant que c'est pour lui le symbole ou l'incarnation des femmes blanches enfermées en grande partie dans des contraintes sociales. Voilà, c'est à chaque fois il arrive à sous-entendre naturellement une pensée politique. C'est ça qui est très fort. Et puis il y a cette très touchante série qui s'appelle Casmen, qui est un peu différente des autres, je trouve, parce qu'elle met en avant une forme de résistance, c'est-à-dire qu'il va photographier dans un endroit isolé un homme, un métayer noir, qui s'appelle Casmen, qui vit dans une sorte d'autarcie. Il est l'un des seuls à l'époque à avoir réussi à vivre de son exploitation, alors que les lois interdisaient aux paysans noirs, en fait, de posséder des terres. Voilà, et Goldblatt va photographier cette figure Casmen qui devient un exemple pour Goldblatt de cette figure de la résistance. Et je voudrais juste finir en disant que il y a un très beau texte à la fin de l'exposition de Goldblatt lui-même. En fait, il y a vraiment la parole de Goldblatt qui est présente tout le long de l'exposition, ça, et ça, je trouve que c'est très réussi. Où il y a cette notion, en fait, de l'événement de la photographie qui, au-delà de sa capacité à témoigner, est vraiment important. C'est vraiment l'événement de la photographie. À la fin de l'exposition, il dit, enfin, est écrit, quelque chose de la réalité s'empare de moi, quelque chose qui stimule, irrite, séduit. Je en approcher, l'explorer, le voir avec toute l'intensité et la clarté dont je suis capable. Pas pour acheter, posséder, coloniser ou m'approprier ce morceau de réalité, mais pour faire l'expérience de son existence. Faire l'expérience de l'existence d'un événement. Ça, je trouve ça vraiment très, très touchant.
Un petit mot d'Annaëlle Pigeard avant de finir avec Fada Egbonnet.
Pour revenir sur la question des universités, David Goldblatt est une figure pour toute la scène, la jeune scène artistique sud-africaine. Il a créé une école qui s'appelle le Market Photo Workshop, qui a formé toute une génération de jeunes photographes sud-africains. Et c'est un homme, c'est un photographe qui est très en prise avec la jeunesse. Dans une des difficultés qu'il a rencontrées récemment, il avait fait don de l'intégralité de ses archives à l'Université du Cap. Et devant la situation décrite dans ses photographies récentes, il a décidé de reprendre ce don et d'en faire don à l'Université de Yale aux États-Unis, ce qui exprime là aussi toute la difficulté de cette situation actuelle en Afrique du Sud.
Et enfin, donc, Fada Egbonnet.
Je crois surtout, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Annaëlle, c'est que Goldblatt, malgré son grand âge, est encore un esprit d'une lucidité absolument éclatante et époustouflante. Il est véritablement troublé par les évolutions de son pays, de son pays aujourd'hui.
L'être, ouais.
Ce qui est magnifique dans l'exposition, c'est de voir... Alors, ça, c'est... Encore une fois, très bien joué de la part de la commissaire. Dans chacune des salles, en tout cas les premières salles, il y a des vitrines avec des documents vintage, vraiment de la fin des années 40. Et à la fin des années 40, il a 16, 17, 18 ans. On ne reverra plus ces photographies après. Elles ont été sorties. Il faut absolument regarder ça. Moi, ce qui me trouble et qui me fait comprendre le trouble de Goldblatt aujourd'hui, c'est par exemple quand on est dans cette salle où il y a une magnifique série de photographies réalisées dans des autobus en 1983, travailleurs noirs qui se rendent à Pretoria pour travailler, qui doivent faire un nombre d'heures insensé de bus tous les jours, le matin, le soir, pour aller travailler. Et en face de cette longue série, il y a une photo en couleur sublime de 2012 avec au lever du jour toute une colonne de bus. Alors qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que 20 ans après la fin de l'apartheid, on y est encore, et cette ségrégation à la fois politique, économique et sociale, elle existe encore. Et pour revenir sur cette question des universités, Goldblatt est parfaitement troublé vis-à-vis de ça, parce qu'il estime, et il le dit lui-même, qu'il y a un mouvement noir aujourd'hui en Afrique du Sud qui n'est pas démocratique, qui n'a pas un comportement démocratique, et que du coup il y a eu un renversement, un antidémocratisme blanc a été suivi par un antidémocratisme noir, et c'est un véritable problème, et il a encore la lucidité d'arriver à en faire quelque chose avec ça, et c'est absolument formidable.
David Goldblatt est grand. Rendez-vous au Centre Pompidou pour voir cette très belle exposition. Vous avez jusqu'au 7 mai pour le faire, et puis si vous le pouvez, faites-vous offrir le catalogue, qui est très beau aussi, de l'exposition, coédité par les éditions du Centre Pompidou et Steidl. À suivre dans la dispute, les expositions Seiya Stoschka et Van Dongen.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, ce soir avec l'une des deux grandes expositions présentées en ce moment à la Maison Rouge. Nous parlerons de Black Dolls prochainement, c'est l'autre grande exposition. Ce soir, on va s'intéresser à Seiya Stoschka, le sous-titre de l'exposition « Une artiste rome dans le siècle ». Il faut dire qu'elle est née en 1933, qu'elle est morte en 2013, qu'elle avait été déportée à l'âge de 10 ans avec sa mère et plusieurs autres membres de sa famille, qu'elle a survécu à 3 camps de concentration, à Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück et Bergen-Belsen. Et puis 40 ans après être revenue des camps, Seiya Stoschka libère sa parole. Nous expliquons, d'abord elle écrit plusieurs livres, et puis elle se met à peindre, à dessiner, elle montrera, c'est d'une part pour son œuvre dessinée et peint la vie d'avant, d'avant la guerre, celle en roulotte, dans une joie, une insouciance, qui était aussi celle de la petite enfant qu'elle est, mais aussi et surtout la vie dans les camps. Elle est présentée dans une version plus grande que ce n'avait été le cas à la Friche Belle de Mai l'an dernier à Marseille. Là, l'expo à Paris se déploie avec 130 œuvres dans un commissariat assuré par Antoine de Galbert et Xavier Marchand. Et c'est Seya Stojka qu'on va entendre maintenant.
Yellow malom, malom, malom. Ole yoidi, yoidi, yae. Oe, ne, 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 yae. Shadrom, yadrom, tilom, malom. Oe, ne, 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 yoe, e, ne, 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 yae. Oe, ne, 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 ne.
On l'entend et on la voit beaucoup, c'est Seya Stojka aussi dans cette exposition. Il y a une salle hein, où des films sont projetés, la salle un peu au cœur de la Maison Rouge, si vous en avez le temps pour voir cette femme se raconter, mais surtout ce que l'on voit, ce sont ses œuvres peintes et dessinées. Sandra Dancourallet, nous entrons à votre suite dans la Maison Rouge, si vous voulez bien.
Alors c'est une exposition bouleversante. Bouleversante évidemment de par l'histoire qui nous est donnée à voir, de cet artiste inconnu. Qui se nomme donc Seya Stojka, qui a vécu pendant 2 ans les camps d'extermination. Mais c'est une exposition bouleversante aussi par ses œuvres qui traduisent en fait dans leur facture, je trouve, l'urgence d'une mémoire. Vous l'avez dit, elle a d'abord commencé par écrire sur son histoire, donc vers 55 ans. Il y a 4 livres qui sont sortis, je crois, dans les années 80 et 90. C'est là une des premières femmes, je crois, tziganes, rescapées des camps de la mort, à témoigner donc de ce génocide. Et puis, vous l'avez dit, les mots ne semblent pas suffire en fait pour exprimer l'indicible, et donc elle se met à peindre pendant 20 ans. Et ce que je trouve très touchant, c'est qu'elle le fait tous les jours, assise à la même table de son salon. Voilà, j'ai trouvé vraiment cette exposition incroyable. Alors, pour parler des œuvres, il y a 2 atmosphères qui s'opposent, en fait. On a d'une part l'horreur des années de guerre, extrêmement détaillée, en noir et blanc, avec des scènes effrayante de la vie quotidienne dans les camps.
Et l'importance, comme chez Goldblatt, des légendes pour cet artiste, parce qu'il y a presque des très courts textes qui accompagnent les œuvres.
Et d'ailleurs, c'est très bien fait dans l'exposition. Il y a également des extraits, justement, des écrits de l'artiste qui suffisent d'ailleurs à commenter l'exposition. Il n'y a pas de texte de salle, mais je trouvais que ça suffit. De toute façon, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et donc il y a cette série noir et blanc, et puis il y a plutôt des paysages de campagne avec des couleurs chatoyantes qui expriment alors soit le bonheur...
Plus que chatoyante, hein,
oui.
Vraiment, ça lumineuse, très colorée.
Oui, oui. Tout à fait. Voire tourmentés, et des ciels tourmentés aussi. Et donc il y a ces couleurs chatoyantes de la première partie en fait de la sorte de vie idyllique en fait de l'artiste de ses premières années avant les camps. Et puis d'ailleurs l'exposition le montre très bien, à la fin de l'exposition on revient sur ces couleurs chatoyantes en fait qui sont comme l'expression d'une paix retrouvée à la fin de sa vie. Le point commun entre toutes ces œuvres, c'est une touche tourmentée, je le disais, et un traitement naïf, mais ça n'est absolument pas péjoratif. On a l'impression que c'est cette fillette de 10 ans, en fait, qui a été emmenée dans les camps, qui, après s'être tue pendant 40 ans, se met ici à témoigner. Et donc, on a vraiment ce regard d'enfant, encore une fois, ce n'est pas péjoratif, ce regard d'enfant qui s'exprime à travers des dessins très crus. Alors, on a les fours crématoires, les cadavres, rien ne nous est épargné. Les souvenirs semblent intacts et nous sont livrés vraiment avec force détail. On a Voilà, parfois une chronologie précise des événements. On a l'arrestation de sa famille par les nazis, puis le voyage en train pour Auschwitz, les séances d'appel au milieu des baraquements, etc., etc. Ce sont évidemment des visions terrifiantes. Et il faut savoir que les membres de sa communauté lui ont reproché d'ailleurs de dépeindre son histoire, de raconter son histoire à des étrangers, puisqu'apparemment, dans la communauté rome, on préfère privilégier le silence face à l'horreur. Mais il y avait comme une urgence, apparemment, à dire horreur.
À décrire. Frédéric Bonnet, sur cette exposition à la Maison Rouge, vous le dites mieux que moi, comment vous dites, Sandra, le nom de l'artiste ?
Chaya Stoshka.
Bon, vous le dites bien.
Je crois qu'on dit Chaya.
Oui. Bon, Frédéric.
C'est une exposition très difficile à commenter parce que la dimension humaine, tragique et émotionnelle emporte tout. Au-delà, je crois, des qualités plastiques éventuelles du travail. Évidemment, elle coche toutes les cases du tragique. Une femme, rome, déportée à l'âge de 10 ans, qui passe par pas moins de 3 camps de concentration et qui, 40 ans après la libération, soudainement a envie de raconter qu'est-ce qu'on peut lui dénier ? Pas grand-chose. Par contre, si on me demande est-ce que ce travail m'intéresse visuellement et plastiquement, la réponse est non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Si je dissocie l'émotion liée au thème et la qualité plastique, oui, le sujet est fort et terrible, mais la forme m'empêche d'être rattrapée par l'horreur même du sujet, parce que je ne rentre pas dans ce qu'on va qualifier de naïf, mais qui n'est même pas le terme très approprié. Mais j'ai beaucoup de mal avec le côté barbouillage, justement, fait à la main dans la cuisine, où on met les doigts dedans. J'ai beaucoup de mal aussi avec la dichotomie, justement, dont parlait Sandra, entre les œuvres, la période sombre et la période lumineuse, on va dire. Elle-même parlait des œuvres sombres et des œuvres claires. Voilà, je crois que il y a une lecture qui est faite essentiellement à partir du thème lui-même. D'ailleurs, je lisais dans le dossier de presse, il y a Florence Aubena qui s'est beaucoup intéressée au sujet, qui racontait que Matthias Reichelt, qui est un critique d'art allemand, qui a contribué à lancer un petit peu le travail en faisant une grande exposition, lui a raconté donc à Florence Aubena qu'il lui disait on voulait pas se retrouver à sélectionner artistiquement en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, l'œuvre était si forte qu'on a même inclus des papiers avec juste une phrase. Et je crois que justement c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire face à un tel travail. On doit sélectionner, on doit dire, prendre la parole en tant que critique d'art ou que curateur et dire oui, ça c'est une bonne œuvre, non, ça je crois que c'est pas une bonne œuvre. Mais là manifestement c'est le contenu et la thématique qui a prévalu et qui prévaut encore, je pense, sur la lecture de tout le reste.
Annaëlle Pigeat, votre commentaire.
Moi, j'ai pris
cette... Petite moue,
oui,
en
non,
écoutant
je,
Frédéric
je,
Bonnet.
Absolument, petite moue, parce que, en fait, j'ai pris cette exposition comme un ensemble. Je crois, effectivement, que les mots ne sont pas très dissociables des... peinture.
Je suis d'accord.
D'ailleurs, ce texte vient d'être traduit en français. Bon, en fait, l'œuvre de Chaya Stoshka est l'objet d'une redécouverte. Alors, il y a beaucoup de redécouvertes en ce moment d'artistes, femmes d'un certain âge, dont le marché de l'art est friand. Je crois que là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est un témoignage historique. On peut penser à d'autres artistes qui ont peint les camps, comme Boris Staslitsky, comme Charlotte Salomon, comme Joseph Staib. Là, la grande différence, comme le disait Sandra, c'est qu'il y a le filtre de la mémoire, ce qui est extrêmement singulier si on veut voir les documents, parce que elle témoigne des camps et elle témoigne de la cause des Roms. Mmh. Si on veut voir les documents de la vie des Roms, il faut aller, je crois, à la Cité de l'Immigration. J'ai pas encore vu l'exposition, mais il y a une exposition sur la vie des Roms. Là, le filtre de la mémoire de ces 40 ans passés produit quelque chose d'extrêmement différent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Chaya Stoika est devenue au gré des années 90, au fil des années 90, une figure publique en Autriche, où elle est née, pour la cause Rome. Il y a même, juste au lendemain de sa mort, une place qui a été baptisée de son nom, je crois, à Vienne, dans un quartier de Vienne. Donc, tout ça, c'est un ensemble, et l'exposition le montre très bien, le fait qu'il n'y ait pas de texte de salle, et qu'en fait, on se promène au son de sa voix, sur les murs, mais aussi dans le film, rassemble tout ça. Pour parler des formes des tableaux, moi, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui m'ont beaucoup touchée, formellement aussi. Elle adopte dans ses tableaux le point de vue d'un enfant. Pour montrer les camps, il y a des scènes assez détaillées, très détaillées de l'horreur. Il y a aussi des scènes dans lesquelles on voit des bottes complètement monumentales, qui sont les bottes des soldats. Et il y a souvent des personnages sans tête, qui sont les soldats sans tête. Et puis à la fin, au moment de la libération, qui sont des corps sans tête. Et elle dit, nous sommes libérés, mais nous n'avons plus de visage. Mais maman, nous sommes libres, nous n'avons pas encore de visage. Et ces dessins sans visage sont pour moi extrêmement, extrêmement forts. Il y a un mélange aussi dans sa peinture de scènes très détaillées, comme je disais, et parfois, enfin de panoramas très larges, mmh. en fait, de scènes très larges, et parfois de très gros plans sur, par exemple, son bras tatoué, noir, sur un fond quasiment abstrait. Mmh. Il y a quelques dessins qui sont aussi quasiment abstraits. Il y a aussi, au moment de la traque, je reviens en arrière, au moment de la traque des Tziganes, des dessins très beaux qui sont des grandes herbes qui semblent abstraites, qui semblent des peintures abstraites aussi, je dis des dessins, mais c'est des peintures. Et on voit des yeux apparaître derrière ces brins d'herbe, et ce sont les enfants qui se cachent derrière les herbes. Elle dit à un moment que les tournesols qu'elle peint au début et à la fin étaient le refuge pour les enfants pour jouer au début, mais c'est aussi l'endroit de la terreur. Ce qui est très beau, qu'on n'a pas dit aussi, c'est que elle a peint tout ça dans le désordre. Pendant toutes les années où elle a peint, il n'y a pas de fil chronologique. Et l'exposition remet ses peintures dans un ordre chronologique, ce qui est une manière commode de les voir. Mais je trouve intéressant de savoir que ce n'est pas dans cet ordre-là, quand on regarde les dates des toiles, qu'elles ont été réalisées.
Alors, peut-être deux commentaires. Joël Saint-Fait qui parle d'une exposition à voir absolument. Quand la valeur testimoniale rencontre le dispositif plastique et transforme notre thorax en caisse de résonance. Et Cécile Pellissier qui parle de cette magnifique et bouleversante exposition. Merci La Maison Rouge pour cette belle découverte. Alors c'est vrai que moi j'ai vécu cette exposition, je ne m'étais pas renseigné à l'avance et j'ai été saisi moi par ce que j'ai vu tout simplement. Alors et c'est très compliqué cette question émotionnelle devant ces œuvres, parce que il y a à la fois, on n'a pas ces mots n'ont pas été prononcés, mais il y a quelque chose qui pourrait avoir trait à l'art brut. Voilà, cette dame qui tout d'un coup se met à... Oui, mais en même temps, plus on regarde l'exposition, plus on se dit quand même qu'elle a regardé. Elle a regardé de la peinture, ce bras tatoué dont vous parlez. Oui. Les derniers tournesols, oui. À la fin, ils sont... Enfin, moi, c'est une œuvre que je trouve plastiquement, pour le coup, très impressionnante, ce qui n'est pas le cas avant. Ces bottes, elles nous font penser peut-être à d'autres choses encore. Mais ça, je n'ai pas fouillé la biographie de Seiya Stoshka. Je n'arriverai pas à bien le dire, pardon. Chaya. Bon, alors Chaya... qu'est-ce qu'il faut... Alors du coup, on se demande entre l'histoire qu'on nous raconte, peut-être trop brièvement, parce que j'ai peut-être lu trop brièvement, et puis la réalité des choses, elle a été coupée de tout environnement culturel. Est-ce que vous sachiez, Sandra Adam-Coralli?
Je sais qu'elle est, je sais pas exactement, hein, je sais qu'elle est autodidacte. Après, elle n'est pas vraiment dans, si on veut la mettre dans une case, dans la case de l'art brut, je ne crois pas.
Mais pourquoi? C'est une question qui m'intéresse, moi, toujours, pardon. Hein,
ce serait pose. Rentré dans un grand débat, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, elle a pas eu, elle n'a pas eu un internement psychiatrique, elle n'a pas fait.
Oui, mais ça, c'est pas, il n'y a pas besoin.
En général, c'est lié.
Le facteur cheval, il n'a pas besoin d'être passé par l'hôpital psychiatrique. Enfin, c'est pas une.
Enfin, on va pas rentrer dans la définition
de l'art brut. C'est l'artiste qui s'invente artiste sans avoir.
Néanmoins, vous avez raison, c'est une esthétique qui s'en rapproche, effectivement. Mais au-delà des catégorisations, moi, je trouve que c'est vraiment difficile de dissocier Effectivement. Mmh. L'émotion de l'œuvre, c'est impossible, en fait. C'est ce qui fait la force de l'œuvre. Et en fait, il y a cette imbrication de autobiographique, vous avez raison, dans l'œuvre. Mais en fait, je pense que l'œuvre, contrairement à ce que disait Frédéric, je pense qu'il faut la considérer dans son entièreté. C'est comme l'œuvre de Charlotte Salomon, par exemple. C'est vraiment une œuvre...
Patrie à faire pour vous. Il faut tout montrer. Enfin, tout montrer, ce qui n'est pas le cas, parce qu'elle a peint des quantités et des quantités. Réponse de Frédéric Bonnet sur ce point.
Mais justement, moi, la question que je me suis posée en sortant de l'exposition, c'est, pour reprendre encore une fois la partition entre les œuvres sombres et les œuvres claires, donc qui sont les œuvres, on va dire, heureuses. Moi, la question que je me suis posée en sortant, c'est comment est-ce qu'on jugerait l'œuvre si on n'en voyait que la partie heureuse ? Encore une fois, plastiquement, sans temps.
Mais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui surgit aussi de l'exposition. Vous avez raison. On pourrait faire des rapprochements esthétiques avec la touche expressionniste allemand, Kirchner, lorsqu'il fait ses grands masques effrayants carnaval, parfois Van Gogh. En fait, il y a quelque chose qui revient toujours au cours de toute sa peinture, que ce soit dans les œuvres noir et blanc ou colorées, c'est ces éléments de la nature, en fait. Même les scènes de camp, elles sont toujours entourées d'un vaste ciel, il y a toujours un arbre, il y a toujours la présence de la nature. En fait, il y a un texte dans l'exposition, elle raconte les camps de Bergen-Belsen et elle se décrit assise parmi les morts. Et néanmoins, elle écrit ceci, elle dit « Ce qui était bien, c'est que c'était déjà le printemps et la nature était en plein travail. C'est que sous les baraques, au bord des planches, l'herbe poussait. » Et elle se met à manger de l'herbe. Je trouve incroyable et révélateur ce rapport de Seija à la nature qui auquel elle se rattache coûte que coûte et qui la sauve finalement. Et
c'était loin de ma question initiale, sur le rapprochement, cet art sort d'où, Anaëlle Pijat, comment vous le voyez-vous ? Mais alors, en très peu de temps, pardon, Vandangen nous attend.
Oui. On ne sait pas très bien d'où sort cet art. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'elle a regardé.
Il faut faire le tri ou pas pour répondre à la question de Frédéric Bonnet ?
D'abord, je suppose qu'il y a un tri qui a déjà été fait par les commissaires de l'exposition. Faire un tri, ça me semble normal. L'œuvre d'un artiste n'est jamais... n'est jamais montrable, enfin, n'est jamais à montrer dans sa totalité. Mais je crois en effet qu'on prend l'ensemble, l'ensemble des deux périodes. Il y a d'ailleurs des tableaux qui sont divisés en deux et qui montrent les couleurs claires et la période sombre, enfin, et les accents sombres. Et je pense qu'on prend les formes et les mots ensemble.
Oui, mais je reste convaincu que si nous n'avions vu que la période claire, on va dire que les œuvres claires, on ne jugerait pas ce travail de la même manière.
C'est pour ça qu'ils sont présentés ensemble. C'est une entièreté, pour reprendre le mot de Sandra. Donc, allez voir par vous-même à la Maison Rouge. Vous avez jusqu'au 20 mai pour découvrir cette exposition Seija Stojka, une artiste rome dans le siècle. Il y a un catalogue édité par Fage et la Maison Rouge. Et puis, d'autres ouvrages liés ou écrits par Seija Stojka qui sont également disponibles.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Alors un sujet pas télégraphique quand même, il nous reste 10 minutes, mais on va quand même parler de Vandangen et le bateau Lavoir au musée Montmartre, dans le cadre de l'année culturelle néerlandaise en France. Bateau Lavoir situé place Émile Godeau, qui a joué, on le sait, un rôle important dans la naissance de l'art moderne à Paris. Vandangen y a résidé à partir de la fin de l'année 1905, il a pu... notamment fréquenté à ce moment-là Maurice Vlaminck, André Derain, Henri Matisse, Pablo Picasso. Les commissaires d'exposition sont Anita Hopmans et Saskia Homs. Et logiquement, Frédéric Bonnet commence à nous en parler.
C'est une exposition aimable.
Bon, bah,
non, si.
Finalement, on n'avait peut-être pas besoin de tant de temps que ça, c'est ça que vous voulez dire.
Non, c'est agréable à visiter, ça va pas non plus bouleverser la science. J'ai trouvé ça plutôt bien fait et plutôt bien accroché dans ces espaces pas très commodes du musée de Montmartre. Après, il y a quelques très beaux tableaux à voir. Il y en a pas non plus des masses. C'est pour ça que je dis que c'est aimable. Le bateau Lavoir, finalement, c'est un prétexte parce qu'on en entend peu parler dans le parcours. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de revoir des tableaux de Vandongen qui marquent une modernité appuyée, parfois assez époustouflant dans le traitement de la figure et dans le traitement des visages. Il y a une chromie qui est absolument unique à Vandongen et une manière de modeler les visages par les arêtes et surtout par la couleur qui est assez exceptionnelle. Après, je crois que l'exposition manque un peu de tableaux flamboyants du Montmartre festif, justement, ce qu'on s'attendait quand même à voir dans cet endroit-là. Et puis, elle s'achève sur une salle absolument terrible qui nous montre que Vandongen, à partir de 1920, est devenu un peintre complaisant, un peintre bourgeois qui réalise des portraits bourgeois, assez convenus, plus du tout mordants. Quand on sait ce qu'il a été, ne serait-ce que 10 ans auparavant, c'est assez terrible.
Bon, ben voilà qui fut expéditif. On a quand même un peu de temps, Anna Elpija, je vous en prie.
C'est difficile de faire une exposition Vandongen après celle qu'il y a eu au Musée d'Art Moderne en 2011, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, et qui montrait Vandongen in extenso vraiment d'une très belle manière.
Mais beaucoup ne l'auront pas vu.
Beaucoup ne l'auront pas vu, et donc on est content de le revoir. Évidemment, le musée de Montmartre, c'est un cadre un petit peu différent, certes absolument charmant et dans lequel il faut absolument se rendre
C'est ça l'occasion d'en parler aussi, c'est pour
voilà.
ça.
Mais effectivement, les salles sont très exiguës, et moi je trouve que l'accrochage est quand même difficile, simplement parce qu'on n'a pas de recul pour voir les tableaux. Alors cela dit...
Ça arrive dans des lieux plus grands.
Ça arrive dans des lieux plus grands, absolument.
Quand les scénographies sont un peu étranges.
Absolument. Mais il se trouve que là, c'est le cas. Le thème, effectivement... Alors, cette exposition rassemble tous les plus grands spécialistes de Vandongen. Donc, elle est faite très sérieusement. Il n'y a aucun doute là-dessus. On retrouve tous les auteurs dans le catalogue. Le sujet du bateau lavoir, effectivement, est bien choisi et une manière de cibler une période dans l'œuvre de Vandongen, qui est le Vandongen le plus tôt, les premières années de Vandongen, qui sont les meilleures. Et en même temps, c'est une période qui, effectivement, irrigue toute son œuvre. Ensuite, il y a un certain nombre de bizarreries, j'ai trouvé dans l'exposition. Par exemple, la présence de Otto Ries, qui est un de ses copains hollandais du bateau lavoir, avec lequel il passe un été à côté de Paris. Dans ces années-là, je trouve que la présence de ce peintre, dont on nous dit en plus qu'il a pris une direction cubiste que Vandongen ne prend pas, arrive de manière un peu
inexplicable. Ça, c'est l'année culturelle néerlandaise en France.
Voilà,
hein. C'est ça le contexte. C'est pour ça que je l'ai rappelé aussi.
C'est le sens de mon propos, mais dire, c'est un peu.
C'est un peu capillotracté.
Voilà, je n'osais pas le dire dans ces termes, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, il y a un certain nombre de tableaux qui sont pas les meilleurs de Vandongen, mais il y a effectivement des tableaux très importants, par exemple les très drôles Dames de Tabarin, qui sont une réponse, d'où le bateau lavoir aux Demoiselles d'Avignon de Picasso que Vandongen a vu au bateau lavoir et qui sont un peu écrasés dans cette petite pièce, qui sont une réponse très drôle parce que ce ne sont pas des demoiselles, ce sont des dames, ce ne sont pas des prostituées mais des lutteuses. Il a voilé leur corps dans des espèces de tenues comme ça, ce qui permet d'esquiver la question du naturalisme, et elles ressemblent somme toute à des forts des Halles plutôt qu'à des jeunes filles. Vandongen, d'ailleurs, soit en passant, ne l'a jamais vendu, l'a toujours gardé dans son atelier, c'est dire l'importance qu'il a accordée à ce tableau. Il y a, dans le sérieux de l'exposition aussi, il y a une découverte dans l'exposition qui est un portrait de Fernande Olivier, qui était la maîtresse de Picasso au bateau lavoir, que Vandongen a aussi beaucoup utilisé comme modèle.
Attendez la fin de la phrase un peu, mais c'est modèle donc.
Comme modèle, en l'occurrence, dans ce tableau. C'est un tableau de 1907 qui était resté dans une collection privée qu'on n'avait jamais vu et qui est un peu étonnant parce qu'on voit Fernande comme ça avec les yeux très noirs, deux mains, les deux mains comme ça un peu roses et les lèvres très rouges et qui, à mes yeux, annonce un peu le Vandongen un peu moins bien dont vous parliez, Frédéric.
Je trouve que c'est une des meilleures pièces de l'expo, ce portrait de Fernande Olivier. Je le trouve absolument exceptionnel. La manière dont il compose tout le portrait avec des tonalités de couleurs complètement diamétralement opposées les unes des autres, et ça tient alors que ça devrait être criard et dissonant, et ça tient. Moi, je suis restée assez arrêtée face à ça.
Mais je dois dire, cher Frédéric, que j'étais vraiment heureuse de revoir Madame de Plagny dans sa robe argentée, qui est dans la dernière pièce de l'exposition.
Que j'ai détestée.
Je n'en dirais pas autant des autres tableaux de la même salle.
Bon, tout ça est cohérent. Alors, Sandra Dancourallet sur ce Vendongen et le bateau lavoir au musée Montmartre.
Alors oui, effectivement, on n'a pas que des chefs-d'œuvre, je suis d'accord. Peut-être que les chefs-d'œuvre, d'ailleurs, sont plutôt montrés au Petit Palais, dans l'exposition Les Hollandais à Paris.
Oui, on en a parlé, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on ferait quand même aussi le musée Montmartre, il n'y a pas de raison.
Voilà, néanmoins, cette exposition, moi, elle m'a amusée. En fait, elle a l'avantage de... déjà, de révéler de manière assez simple la manière dont Vendongen s'est créé un style... Et justement, vous en parliez, Frédéric, un style de vie. C'est-à-dire que s'il est passé par le bateau lavoir, qui est un atelier un peu de briquet de broc, pour des artistes qui n'avaient pas les moyens de se payer mieux, on voit bien au fil de l'exposition que Vendongen va très vite avoir du succès et puis il va déménager. L'exposition raconte ses histoires de déménagement dans différents ateliers. Il était rue Lamarre, puis rue Saunier, puis à d'enfer Rochereau, où il est devenu très mondain. Il faisait des sortes de réceptions jusqu'à son déménagement à Monaco dans les années 50.
L'ascension sociale, en tout cas.
Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça assez amusant. Et ce qui est amusant aussi, c'était cette relation de compétition qui existait entre Vendongen et Picasso et qui est née au bateau lavoir. Ils vont peindre et dessiner très souvent les mêmes sujets, notamment le cirque Medrano où ils se rendaient ensemble.
Quand c'est pas la même femme, donc.
Exactement. Donc c'est assez flagrant avec la figure de Fernande qui était la compagne de Picasso, qui a servi de modèle aux deux. Cette peinture d'ailleurs de Fernande est assez incroyable, moi je trouve.
Alors, vous êtes dans le camp Frédéric Bonnet plutôt. Hein.
Voilà. Bon. Si, je trouve que cette manière de résumer à quelques traits seulement cette Fernande qui devient une sorte d'idole primitive, moi je trouve ça. Enfin, vraiment, moi, je trouve même que là, Vendongen, il est au sommet de son art.
Naël, vous êtes en minorité.
Je suis un peu
seule. Oui, non, et justement, c'est très juste parce qu'il y a un rapport au primitif très, très fort dans ce tableau. Et ce qui est intéressant, et là aussi, je vous rejoins sur la rivalité amitié avec Picasso, c'est intéressant. Il y a quelques documents qui sont dispersés, qui montrent des photos de la famille de Vendongen dans l'atelier de Picasso, avec un bout des Demoiselles d'Avignon, un bout d'un autre tableau de Picasso. Et là aussi, on a cette question du primitivisme. Et on voit que les artistes qui ne prennent pas la même voie, mais sont sur des questionnements qui sont similaires.
Mmh. Oui, et cette question du primitivisme, d'ailleurs, va conduire donc certains, comme Picasso, à aller jusqu'au cubisme. Et le cubisme, il se ressent déjà dès les Demoiselles d'Avignon. Et on voit bien, avec ce tableau quand même, qui est assez étrange, des lutteuses de Tabarin, que Vendongen y prend totalement le contre-pied des Demoiselles d'Avignon. Il est dans une sorte de... Enfin, vous l'avez très bien décrit, Anaël. Donc, quitte à ne demeurer plus académique, il ne suit pas cette histoire du cubisme. Il dit d'ailleurs, un art qui ne serait que de la science serait du suicide. Alors, je pense que c'est pas juste, d'ailleurs, puisque le cubisme n'était pas seulement une recherche mathématique, mais c'est comme cela que Vendongen, quelque part, justifie le fait de rester dans une peinture, peut-être, effectivement, de plus en plus séduisante.
Ouais, mais Anaël Pizza, pardon.
En fait, l'avantage de cette exposition, c'est que c'est une exposition très vivante, puisque elle est très dynamique, est dynamique, qui a un dynamisme réel, puisque elle prend ce thème pour nous donner un aperçu de l'œuvre de Vendongen très large. En fait, il y a le magnifique tableau du début, comme l'autoportrait sur fond gris, qui est absolument superbe. Le Liverpool Lighthouse avec ce militaire et cette femme. Il y a des dessins aussi qui sont formidables, dont une faucheuse avec deux petits chevaux violets fantastiques. Il y a des écuyères, il y a le manège de cochon aussi qui est de 1905. La présence de cette Parisienne, de cette Fernande, est quand même une manière de créer l'histoire qui, même si je vois des réserves à ce tableau, elle mérite de faire avancer les choses. Et donc voilà, c'est une exposition qui est dans ce lieu et qui permet de se rafraîchir la mémoire sur Van Dongen et qui procure quand même beaucoup de plaisir.
Bon, ben voilà des notes positives. Je pensais quand on cherche toujours à faire des expositions Picasso, il y avait Picasso et ses maîtres, on pourrait faire Picasso et ses rivaux. Il y aurait de quoi remplir le Grand Palais là aussi, parce que qu'est-ce qu'il a eu comme rivaux, Picasso. Voilà, ça va rimer. Van Dongen et le bateau lavoir jusqu'au 29 novembre au musée Montmartre et un catalogue donc où tous les spécialistes sont là, édité chez, on dit Somogyi ou Somogyi, je sais jamais. Somogyi. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute avec Camille André qui va nous rappeler dans un premier temps la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Camille.
Comment se nomment les deux lions en marbre rose qui montent la garde de part et d'autre de la façade de la bibliothèque publique de New York? Et la réponse était patience et courage.
C'est un peu comme nous dans la dispute finalement. Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour Test Nota, une vie à l'étroit, un film de Kantemir Balagov qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, dans le cadre de quel festival le film Test Nota, une vie à l'étroit, a remporté le prix du jury présidé par Catherine Deneuve cette année?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, commentaires à poster sur la page Facebook La Dispute FC ou sur le compte Twitter Dispute FC. Demain, donc 19h, dispute littérature avec Elisabeth Franck Dumas, Florent Georgesco, Étienne de Montetti. Nous parlerons de Tous les chats sautent à leur façon d'Erta Müller. Votre message a été envoyé de Joshua Cohen et l'interruption de Dominique Noguez.